voix nue. Cette semaine, de lundi à vendredi, Zoé Sfez rencontre Jérôme Clément. Ce soir, l'invention d'Arte. Bonjour Jérôme Clément.
Bonjour.
Bonjour, on se retrouve pour ce quatrième épisode, vous êtes un peu enrhumé.
Oui, là, c'est entre-temps j'ai pris froid, donc pardon aux éditeurs qui entendront une voix enrhumée, mais enfin cette saison.
Cette saison, et en plus vous êtes là et vous êtes toujours en verve malgré le rhume.
On verra.
Parlons maintenant d'un projet qui a été au centre d'une très grande partie de votre vie quand même, 20 ans, Arte. Vous avez consacré un livre à cette aventure qui a été la mise sur pied, la naissance et puis le développement de cette chaîne franco-allemande Arte. Vous écrivez d'ailleurs dans ce livre le choix d'Arte. Rien ne me destinait à passer 20 ans avec l'Allemagne dans ma vie.
Oui, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. Je pensais vraiment pas que j'aurais à travailler à ça, non. Avec Arte, vous dites que j'ai écrit un livre. J'y ai surtout passé 22 ans. 22 ans dans une vie professionnelle, c'est à peu près la moitié au moins du temps qu'on consacre à une activité. Donc, c'est l'essentiel.
Justement, à l'époque où tout commence dans cette histoire d'Arte, vous êtes à ce moment-là au CNC, au Centre National de la Cinématographie. On en a parlé hier. Et il y a Jack Lang, qui est à nouveau ministre de la Culture, avec qui vous êtes dans un avion, vous rentrez du Festival de cinéma de Venise.
Oui, et Daniel Toscan-Duplantier aussi.
Exactement, qui joue un rôle assez important, d'ailleurs, dans cette partie-là de votre vie, mais
oui,
à d'autres moments, on en reparlera sûrement.
Bien sûr.
Et qui vous parle à ce moment-là de l'A7, qui est une toute petite société de production. Qu'est-ce que c'est l'A7 à l'époque? Jack Lang cherche quelqu'un pour prendre la direction de cette société. Et qu'est-ce qui vous a emballé sur ce projet qui était tout petit à l'époque?
Oui, qui existait à peine. En fait, il faut se replacer dans le contexte de 1985, à l'époque où François Mitterrand avait eu cette idée saugrenue de vouloir créer une chaîne paillette. Et c'était Bettino Craxi, qui était le président du conseil italien, qui lui avait dit, tu sais, il y a un type formidable qui fait des choses très bien en Italie, qui s'appelle Berlusconi, et il n'était pas connu à l'époque, hein. Il faisait de l'immobilier, il avait lancé des chaînes de télévision. Et comme il y avait des risques en 86, tout le monde voyait bien que la gauche allait perdre les élections, créer une chaîne nouvelle, il trouvait ça pas mal. Et donc, François Mitterrand a eu cette idée, à laquelle j'étais absolument pas d'accord, de créer une chaîne privée paillette. C'est ce qu'il a fait. Et donc il a créé la chaîne Berlusconi. Et ça a tellement protesté dans les milieux culturels, à commencer par Jack Lang d'ailleurs, qui s'est dit, faudrait peut-être faire quand même quelque chose de plus conforme à nos idées. Et il a lancé une mission d'étude qui a été confiée à Georges Duby, à Pierre Desgroupes, qui ont chacun, de leur côté, travaillé sur l'idée d'une chaîne culturelle. Et cette idée a abouti par la décision de Laurent Fabius en janvier 86 à la création d'une petite structure, Société Européenne de Programmes Télévisés, 7, qui pouvait être aussi la 7e chaîne, donc il y avait un jeu de mots, qui a été confié à Bernard Favre-Darcier, une petite structure qui pouvait faire la production de programmes de qualité. Mais on ne savait pas trop encore comment elle serait diffusée. Bon, la droite arrive au pouvoir en 86, ils se demandent ce qu'ils font. Finalement, ils gardent la 7 en la confiant à quelqu'un d'autre que Bernard Favre-Darcier. Voilà, pendant 2-3 ans, ça continue. Et puis en 88, François Mitterrand est réélu président de la République. Moi, je suis toujours directeur général du CNC. L'idée de continuer encore m'ennuyait un peu, je trouvais qu'il fallait changer, que c'était bien. Bon, j'ai pas d'idée très précise, mais je me voyais pas refaire 7 ans ou 5 ans ou des années comme ça. Et c'est les circonstances. Dans cet avion, où on rentrait du Festival de Venise avec Daniel Toscan-Duplantier et Jack Lang, que la conversation est venue là-dessus. Et effectivement, j'ai tout de suite sauté dessus. Sans doute parce que j'avais dans l'idée, depuis longtemps, depuis le Caire, on en a parlé, que la télévision, c'était très important pour diffuser des programmes de qualité, qu'on pouvait faire des choses intéressantes, et que là, il y avait un défi qui m'intéressait. Alors, ils étaient tous contre, hein, en se disant, mais enfin, t'es fou, tu vas pas quitter le CNC, c'est une grosse machine, ce truc-là n'existe pas. Jack Lang n'était pas favorable, en me disant, mais bon, j'ai besoin de toi au CNC, puis qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Enfin bon, et Catherine Tasca aussi, qui était ministre de la Communication, secrétaire d'État, qui elle était plutôt favorable. Enfin, ça a pris quelques mois. Voilà. Et puis finalement, j'ai sauté le pas. Et début 89, je suis devenu vice-président aux côtés de Georges Duby de la 7.
Parce que c'est ça, parce que c'était quand même une période d'explosion absolue sur la télévision,
oui.
sur la radio. Et vous vous dites que vous aviez la sensation qu'il allait se passer des choses
oui.
et que notamment sur la culture, c'est quand même une époque où,
oui.
où il y a l'ouverture, il y a la création de, il y a TF1, il y a M6, et vous sentez qu'il faut réinvestir ou en tout cas prolonger la réflexion sur cette télévision qui est encore un média naissant. Vous l'avez dit, qu'on voit comme un concurrent du cinéma, qu'on comprend mal.
Oui. Alors je connaissais bien effectivement le cinéma et j'avais vu tout le secteur audiovisuel de près, mais j'étais convaincu qu'on pouvait faire autre chose de la télévision, un autre usage de la télévision qu'une chaîne de divertissement ou des chaînes grand public, quelle que soit leur qualité ou leur défaut. Moi je pensais qu'on pouvait s'en servir pour apprendre des choses, pour montrer comme un instrument de curiosité, d'ouverture et d'intelligence. J'avais ça dans l'idée depuis longtemps, d'ailleurs... Dès 1984, moi, j'étais pas très favorable à la création de Canal+, j'étais même opposé, et je pensais déjà qu'il fallait faire une chaîne culturelle. En 88, il y avait une autre opportunité, et je me suis dit, on va y aller.
Cette opportunité, à quel moment? Parce qu'il y avait cette histoire déjà, cette idée qui remonte quand même assez loin d'une création d'une chaîne européenne ou culturelle. Quelle était la nature du projet à la base? C'est-à-dire, à quel moment est-ce que c'est devenu un projet franco-allemand?
Bah, d'abord, au départ, il y avait Georges Duby, dont j'ai déjà parlé, qui était un grand monsieur et qui était...
Historien,
médiéviste. C'était pas un spécialiste de la télévision, mais ça l'intéressait à la culture européenne. Et puis, il y avait Michel Guy, que j'ai retrouvé comme vice-président de la 7, et qui, lui, était plutôt tourné vers les Anglais. Et donc, ils avaient des liens avec Channel 4. L'idée était de faire des programmes européens, mais plutôt avec les Anglais qu'avec les Allemands et qu'avec d'autres partenaires. Voilà. Après, c'est vraiment un choix politique qui a été celui de François Mitterrand et d'Helmut Kohl. On est en 1988. Il y a trois hommes qui comptent énormément pour l'Europe. Jacques Delors à Bruxelles, François Mitterrand à Paris, Helmut Kohl en Allemagne. Et ils cherchent à mettre en place des projets franco-allemands dans tous les domaines. L'avion, c'était Airbus, l'Eurocorps, c'était l'armée. Et ils se disent, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une chaîne de télévision ensemble? Et à Munich, en octobre 89, ils décident de faire une chaîne de télévision ensemble, français-allemand. Alors évidemment, tout le monde est surpris. Le projet avait été un peu initié par Lothar Späth, qui était ministre-président du Bade-Württemberg, et par Jacques Lang, ils en avaient parlé comme ça. Mais enfin, là, il y a une décision politique. Et moi, quand j'étais responsable de la 7, je ne sais plus quel était mon titre à l'époque, mais... Évidemment, je suis très 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 surpris. Et puis on s'est dit, mais ça ne marchera jamais. D'ailleurs, moi, faire une télévision avec les Allemands, je trouvais ça bizarre. Je me souviens encore des conversations que j'avais avec Georges Duby. Georges Duby me dit, venez me voir régulièrement. Il me disait, vous y croyez, vous, à cette histoire avec les Allemands? Vous pensez que ça peut marcher? Je lui disais, écoutez, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein, il faut que ça marche. Oui, mais enfin, moi, je pense que c'est une idée saugrenue, ça ne marchera jamais. Il y avait beaucoup de scepticisme. Tout le temps de la part de beaucoup de gens. Et après, on est rentré dans une négociation qui a duré deux ans de discussion pour mettre au point un traité. Et d'ailleurs, les Allemands n'étaient pas chauds non plus. C'est-à-dire, en plus, Helmut Kohl avait pris la décision alors qu'il était chancelier et que c'est de la compétence des Länder. Donc, il n'avait pas le droit de s'engager comme ça. Et les chaînes de télévision, l'ARD, la ZDF, très puissantes, vous ne voyez pas l'intérêt de faire ça. Donc, il fallait convaincre tout le monde, en fait. Et on est rentré dans un processus très long de discussions, de négociations, pour mettre au point un texte, comme font toujours les Allemands. Ils établissent un contrat, on discute chaque phrase, chaque terme, on imagine toutes les situations, tous les conflits, tout. Rien ne doit être laissé dans l'ombre. Ceci se faisant, on apprend à se connaître, on discute, on parle programme, on parle de nos vies, on raconte un petit peu. Et puis voilà, peu à peu, on crée une habitude de travailler ensemble. Et le traité a été prêt... deux ans après, quoi, en 91.
Parce que justement, vous rappelez les réticences, ou en tout cas les hésitations de Georges Duby, vous rappelez que Georges Duby fait partie de ces gens, de cette génération qui avait 30 ans en 1940.
Oui.
Et que, on l'oublie peut-être, mais en 88, il y avait une bonne partie de la France et des décideurs qui faisaient partie de cette génération. Donc c'était pas uniquement une histoire de croyance.
Il y a eu de la germanophobie d'une façon... incroyablement forte. J'ai jamais oublié, je l'ai rappelé souvent. Pardonnez-moi de le redire ici, mais quand la première émission d'Arte, le journal du dimanche, c'est en 92, avait titré Arte, la chaîne de Goebbels. c'était quand même très 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 violent, quoi. Et il y avait des articles dans les journaux, il y avait Jacques Martin qui avait fait un sketch dans son émission Vivement Dimanche, on voyait les Français en train de manger la poule au pot, tout le monde à table, content, le béret basse, le béret sur la tête, etc. Et puis arrivaient des Allemands qui rentraient dans la pièce, qui bazardaient tout ce qu'il y avait sur la table, et qui disaient « Achtung, nun kommt Arte ». Attention, Arte arrive, voilà, donc c'était très difficile parce que les Allemands trouvaient ça d'un goût douteux et puis même ça crée des problèmes politiques entre nous. Créer un imaginaire commun, vous vous rendez compte le défi que ça représentait, créer un imaginaire commun et travailler avec les Allemands à exprimer des émotions, des histoires, c'était très 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 difficile, même en 95, 92. Alors ce qu'on a eu comme idée, on s'est dit, bon, faut prendre le problème à bras-le-corps. Et comme c'était le 50e anniversaire de la guerre mondiale, on s'est dit on va parler de ça et on va voir comment d'un côté et de l'autre du Rhin, on a vécu cette histoire. Donc ça a été cette émission formidable, Histoire parallèle avec Marc Ferraud, où chaque semaine on montrait les journaux télévisés de l'époque, côté allemand, côté français, avec deux invités qui commentaient l'actualité, mais parfois aussi avec des journaux russes, etc. Pour voir comment l'histoire était racontée, comment cette période avait été vécue des deux côtés du Rhin. Et peu à peu, grâce à tout ce travail qu'on m'a parfois reproché en disant « Ah, vous parlez que de ça, vous parlez que de la guerre », mais non, c'était nécessaire, c'était un travail de réhabilitation de la mémoire et une façon de, non pas d'effacer bien sûr, mais d'aller plus loin, quoi, d'essayer de vivre ensemble malgré ça, et de résoudre ces problèmes qui passaient beaucoup par l'image, par l'imaginaire, par les récits personnels, collectifs, par les discussions qu'on avait. On en a fait beaucoup, mais c'était volontaire. Et je me suis dit que c'était gagné le jour où on a pu montrer sur Arte le débarquement de Normandie, le 6 juin 44, c'était quand même une affaire très sérieuse, vue du côté allemand. C'est-à-dire on voyait les Allemands avec leur caméra filmer le débarquement et les Allemands, les soldats allemands, évidemment, morts de trouille dans leur bunker à l'idée de voir toute cette armada qui débarquait. Et d'un seul coup, on voyait les deux côtés, quoi. C'était de ces guerres terribles, quoi, affreuses. Et je pense qu'on a fait un travail utile. Et puis, avec les Allemands, on a établi peu à peu une vraie amitié, une vraie complicité. Ça a été très utile parce que Arte n'aurait jamais tenu le coup si c'était resté franco-français. Ce qui a permis à Arte d'être ce que c'est devenu, c'est aussi de prendre appui sur les Allemands. De même que parfois les Allemands prenaient appui sur les Français. Parce qu'on s'enrichissait de nos différences. C'était pas un handicap d'être différent, c'était une force. Et quand j'ai eu des problèmes parfois politiques avec les gouvernements français, bah je demandais aux Allemands de me donner un coup de main et de m'aider pour battre une idée saugrenue qui pouvait naître à l'esprit d'un nouveau ministre. Comme ça, on a pu durer.
C'est ce que vous disiez aussi, et c'est ce qu'on comprend aussi, c'est que, par ailleurs, évidemment, l'audiovisuel public dépend aussi beaucoup en France et dépendait aussi à l'époque de la politique, de l'arrivée, du départ de certains. Et ça, les Allemands, vous l'avez dit, c'est pas tout à fait dans la culture. Il y avait aussi cette question de la culture, de oui. La place de l'audiovisuel public. Parfois, vous allez voir vos collègues allemands, vous leur dites, bon là, ça va être compliqué, ou on est en danger. Et pour eux, c'est culturellement assez étrange, cette place du politique sur l'audiovisuel. C'est intéressant de le rappeler, que nous, on a quand même toujours en France cette place très importante de la politique dans la vision de l'audiovisuel public.
Il y avait des différences terribles. Par exemple, quand on faisait une interview, l'habitude en France, c'est que on demande à l'Élysée si c'est le président, s'il est d'accord pour tel ou tel journaliste. Inimaginable en allemand. Inimaginable qu'on demande son avis à un président, à un chancelier, c'est pour l'interviewer. Ça, il me regardait avec des yeux ronds quand je leur racontais ça. Il comprenait pas qu'il faille se référer au ministre quand il y avait un problème financier. Pour eux, c'était pas du tout le boulot du ministre. C'était un travail qu'on devait régler sur un plan technique et pas du tout politique. Les références, souvent, j'ai entendu, mais même la méconnaissance du côté français du fonctionnement allemand m'a toujours sidéré. Chaque ministre, chaque fois qu'il y avait un problème, me disait « Bon, c'est pas grave, je vais téléphoner à Berlin, à mon homologue. » Sauf qu'il n'y avait pas d'homologue, il n'y a pas de ministre de la Culture fédérale. Mais une ignorance souvent crasse de la part des responsables français qui imaginaient un pays centralisé au modèle français, ce qui n'est pas du tout le cas. J'ai eu évidemment d'innombrables séquences, comme quand j'ai voulu changer le directeur des programmes et que je suis allé voir le patron de la ZDF à Mayence, Dieter Stolte, et je lui dis, voilà, on a un problème, il faut changer le directeur des programmes. Il m'a dit, mais non, il a été nommé pour 4 ans, il restera 4 ans. J'ai dit, bah oui, mais entre-temps, la chaîne sera morte, parce qu'on ne va pas y arriver. Et du côté français, ça ne passe pas. Il me dit, bah écoutez, oui, peut-être, mais moi, on a été nommé pour 4 ans, il fera ses 4 ans. Je lui dis, mais vous voyez bien que ça ne marche pas. Il me dit, vous savez, la télévision allemande est pleine de responsables qui ne marchent pas, et ça ne les empêche pas de tourner. Un mandat, c'est un mandat. Je dis, ben non, on va pas y arriver. Il a rien voulu céder, quoi. Je suis parti de là fâché, et il a fallu que j'obtienne la démission de ce responsable pour ensuite qu'il soit obligé d'accepter ce que je voulais faire. Donc des problèmes comme ça, on en avait tout le temps. Ce qui a été formidable, c'est qu'il s'est créé une équipe géniale, quoi, de gens qui étaient enthousiastes, qui se rendaient compte de l'enjeu historique que représentait la chaîne franco-allemande. C'était un symbole, je crois que ça allait rester, dans la relation entre les deux pays, un symbole de réussite et de dépassement des antagonismes, une œuvre de réconciliation. Et on y est arrivé, on n'y est pas arrivé sans crise, sans difficulté, mais on avait tous, je pense, et c'est ça qui a fait la grandeur, la beauté et la réussite, la conscience de l'enjeu qu'on avait entre les mains. Il faut pas être ethnocentrique. On a fait la preuve, et ça c'était pour moi vital, que la culture est d'abord justement une ouverture, qu'elle ne peut pas être ethnocentrique. Et Arte, c'était tout sauf ethnocentrique. Il y avait à peu près un tiers de programme français, un tiers de programme allemand et un tiers de programme d'autres pays. Après, les partenariats, oui, c'est pas seulement les pays de l'Est. Je suis allé en Italie. L'Italie, je pourrais vous raconter mon aventure italienne comme François Ier pendant des heures. Les difficultés à convaincre les Italiens. J'ai été très aidé par un mouvement en Italie qui était très très favorable à ce qu'on crée Arte Italia. Mais alors après, le gouvernement, il n'avait pas d'argent, les présidents de la RAI changeaient. Alors il y en a eu un qui m'a beaucoup aidé, qui est Veltroni, qui était vice-président du Conseil, qui a tordu le bras au président de la RAI, qui s'appelait Zaccaria. On a signé un accord, on s'est embrassé, ils ont envoyé quelqu'un, etc. On avait plein de programmes sur Dante, sur Florence, sur ceci, sur cela. Et puis, 6 mois après, ils ont disparu. On les a plus vus. Alors, c'est arrivé souvent. En Espagne, on a créé la DOS, qui était on mettait les programmes d'Arte España sur la deuxième chaîne. Et il y a les soirées thématiques d'Arte le samedi soir sur la deuxième chaîne espagnole. Et on a passé des accords et on se voyait. Et puis en Pologne. Mais alors en Pologne, ça a suivi les vicissitudes de la politique, parce que comme c'était un enjeu politique majeur, le contrôle de la télévision, tantôt ils étaient pour, tantôt ils étaient contre. Alors il y avait Guéremec, qui était ministre, Bronislav Guéremec, qui était un grand ami de Georges Duby, qui était ministre des Affaires étrangères, qui nous a beaucoup aidés. Et puis pouf, ensuite, avec les frères Kachnevski, c'est tombé dans le trou. Et je pourrais faire la liste, je pourrais vous raconter des anecdotes sur presque tous les pays où je suis allé. J'ai sillonné l'Europe pendant 20 ans, j'ai sillonné l'Europe, en espérant à chaque fois pouvoir associer des partenaires. On y est arrivé avec les Belges, on y est arrivé avec les Suisses, parce qu'ils parlaient la même langue, un peu. On y est arrivé un temps avec l'Espagne, un temps avec l'Italie, un temps avec la Pologne. Et puis, voilà, rien de vraiment durable. C'est pour ça que c'est une leçon politique. Les seuls partenaires fiables dans la durée, c'est les Allemands. C'est tout. Il faut payer et il faut avoir de la suite dans les idées. Il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent dire ça aujourd'hui.
Arte, ça a été aussi un moment de réinvention totale de ce qu'on pouvait faire à la télévision en matière de culture. Vous avez vraiment poussé des murs et inventé des objets télévisuels qu'on n'avait jamais vus avant. Il y a eu évidemment des émissions extrêmement importantes qui ont existé dès le début. Palette, oui. Ensuite Le Dessous des Cartes, oui. Qui est une émission qui a eu la longévité, oui. qu'on connaît, oui. Et puis des espèces de coups comme ça, on en a parlé hier, oui. Le décalogue de Kieslowski, oui. Tout cet après-midi bleu, ça a donné aussi des lieux à des blagues, c'est de là, oui, que viennent les premières blagues. Je crois que vous, oui. racontez un moment où il y avait des rencontres justement entre François Mitterrand et des politiques allemands, et pour s'embêter, je crois que c'est François Mitterrand qui dit « Attention, sinon je vais vous obliger à regarder Arte pendant,
oui.
toute la soirée.
» Oui, mais c'est plantu, Plantu faisait des dessins à la une du Monde qui étaient très drôles. Il disait écoute François, si tu m'embêtes, c'est Kohl qui disait ça à Mitterrand, plutôt, dans l'inverse, je t'enferme une journée à regarder Arte. Ou alors on voyait Chirac arriver au moment des négociations du GATT en disant si vous ne résolvez pas le problème, je vous enferme toute la journée avec Arte. Enfin, Plantu, c'est des années à cœur joie. Ça nous faisait plutôt rigoler. Ça, c'était pas très méchant, mais c'était sympathique. Non, mais il y a une équipe extraordinaire. Je pense à André Harris, qui a été le premier directeur des programmes, qui a inventé un habillage formidable avec Hélène Guettari, Alain Manneval, qui était...
Les ballons.
Oui, Alain Manneval, qui était complètement décalé, mais qui a une créativité extraordinaire, une poésie dans ce qu'il faisait, qui était formidable. À Hans-Robert Eisenhower, qui est un Allemand qui a inventé les soirées thématiques, qui était aussi tout à fait remarquable. Et puis toute une équipe, Pierre-André Boutan, Thierry Garrel, Pierre Chevalier, qui a joué un rôle majeur dans la fiction et dans l'invention, justement, de nouvelles formes, de nouveaux formats.
C'est quoi ces formats, ceux qui vous ont rendu le plus fier, peut-être?
Les soirées thématiques, c'était quand même très original. C'était une invention allemande. C'était difficile, quoi, de faire toute une soirée sur un thème en l'illustrant de plusieurs façons. Et au départ, évidemment, tout le monde disait, ils vont se casser la gueule, on va s'ennuyer, passer toute une soirée, je sais pas, moi, sur Prague ou sur Berlin, etc. En fait, ça a très bien marché. Les gens étaient plutôt intéressés. Ça, je trouve que c'était un format qui a été très, très heureux. Les habillages aussi, les habillages de chaîne, on a complètement changé la physionomie des habillages de chaîne avec les jumelles. Donc, on voyait beaucoup les moutons. Vous voyez, quand à la fin des programmes, on mettait des moutons pour que les gens s'endorment, ça a marqué, hein, ça a compté. Il y avait des gens qui étaient amoureux des moutons. On a même fait des DVD pour que les gens regardent les moutons en âge continu pour s'endormir. Donc c'était rigolo. Voilà, il y avait. Vous parliez de Palette et de Jean-Christophe Victor, mais Jean-Christophe Victor qui a inventé le dessous des cartes, c'est une façon d'expliquer la géopolitique à partir de cartes qui a été essentielle, quoi, qui a marqué. Après, on a tiré des bouquins, il y a eu énormément de choses. L'explication de la peinture par Alain Jaubert de Palette, c'était... Ça a aussi beaucoup compté. Mais Métropolis, qu'a fait Pierre-André Boutan pendant des années, c'était le meilleur magazine culturel qui soit. Donc on a eu des audaces, mais aussi des audaces de programmation. Ça, c'est capital. Parce qu'il ne suffit pas de faire des bons programmes si on les passe à minuit ou à 2h du matin. Et on a pris des sujets qui étaient très imprévus, quoi, très inattendus, dont on ne savait pas trop ce qu'on allait en faire. Je pense à Corpus Christi, bien sûr, de Gérard Mordilla et de Jérôme Brieur, qui racontait l'histoire... du Golgotha et des jours, l'interprétation, alors c'était très austère, hein, c'était sur un fond noir, des gens savants qui venaient parler de Saint Paul et de savoir ce qui s'était vraiment passé au moment de la crucifixion et de ce qu'ils avaient avant avec le suaire de Turin. Enfin, c'était des sujets austères. Bon, quand on voyait ça, on s'est dit, c'est formidable, mais comment va-t-on faire pour le diffuser? Et on a pris le parti inverse de celui qu'on nous conseillait, c'est-à-dire qu'on l'a diffusé à 8h30, la semaine de Pâques, de dire afficher clairement ce qu'on voulait faire. Et ça a marché. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de public, ça a été un événement, on en a énormément parlé, des pages entières dans les journaux. D'un seul coup, on a surpris. C'est pour ça que j'en ai conservé l'idée qu'il faut être audacieux, il faut prendre des risques, il ne faut pas avoir peur. Quand je vois les responsables de télévision aujourd'hui qui passent leur temps à dire « oui, mais ça ne fera pas d'audience, oui, mais tu comprends, on ne peut pas faire ça parce que c'est pas ça », c'est une erreur. C'est une erreur. Il faut pas le faire tout le temps, mais il faut prendre des risques. Il faut avoir de l'ambition. Il faut avoir une vision des programmes. Il faut prendre les téléspectateurs pour des gens intelligents, pas pour des idiots, à qui on n'est pas obligé de resservir toujours la même soupe, quoi. Il faut au contraire leur donner une matière à réflexion. Alors, de temps en temps, ça marche pas. Bien sûr, ça arrive. On peut se tromper. Mais 9 fois sur 10, ça marche. Et après, les gens font confiance, quoi. Ils sont intéressés. Et on en parle beaucoup, ça donne lieu à discussion, ça donne lieu à conversation. Et là, je trouve que la télévision joue vraiment son rôle. Et quand on passait aussi des émissions allemandes, alors on souhaitait de nous aussi, on disait « Ah bah oui, Arte, les films moldaves sous-titrés en croate, bon, etc. » J'en ai entendu beaucoup parce qu'on passait des films lituaniens, des films... hongrois, mais enfin, ça a permis de découvrir des cinéastes inouïs, quoi. C'est comme ça qu'on a découvert Lars von Trier, qui a fait ses premières émissions, c'est pour diffuser les premiers films sur l'hôpital sur Arte. C'est comme ça qu'on a fait découvrir le cinéma hongrois et roumain en particulier, et qui après sont devenus des Palmes d'Or. On a eu, je sais pas, 16 ou 18 Palmes d'Or à Cannes pendant que j'étais à sa tête, ce qui montre qu'il y avait une reconnaissance du travail et des risques pris. Il faut de l'audace. Alors après, il faut doser. Il faut pas qu'il y ait que ça, parce que sinon on se marginalise. Mais il faut doser savamment l'audace. Et puis, il faut aussi évidemment des documentaires sur les animaux, sur la cuisine, sur ceci, sur cela. Mais c'est important de prendre des risques, d'avoir beaucoup de respect pour le téléspectateur et toujours l'esprit ouvert et curieux à 360 degrés. On me demandait toujours comment vous définissez la culture. Je la définissais comme ça. Les slogans qu'on a pris, vivons curieux.
Quel regard vous portez sur la manière dont la télévision aujourd'hui, notamment Arte qui est très présent sur le web, il y a Arte plus 7 qui a de très beaux succès. Comment est-ce que vous regardez la manière dont la télévision existe parfois maintenant aujourd'hui ailleurs qu'à la télévision? Et oui. Arte a gagné beaucoup, a gagné de la force aussi, semble-t-il, en étant présent sur le web.
Ah oui, moi je trouve le travail qui est fait par Véronique Kella sur le web et toutes les plateformes et tout ce qui existe, Arte Concert et toutes les plateformes numériques qui s'organisent maintenant d'ailleurs avec Radio France en ce qui concerne le live et les salles de concert virtuelles, ça je trouve ça vraiment très très bien. Alors, on avait commencé un peu à le faire, mais la technologie a permis de le développer et je pense que c'est l'avenir. Je suis tout à fait favorable à ça, à ces croisements, notamment entre la radio. Je trouve ça très intéressant ce qui se fait actuellement entre France Culture, France Musique et Arte sur les programmes et sur les plateformes. Je pense que c'est une idée riche d'avenir. Après, moi j'ai toujours pensé aussi que l'essentiel c'était le contenu. C'est-à-dire que la technologie, elle change, elle évolue. Moi j'ai commencé avec la TV hertzienne, on a fini avec Internet. Mais ce qui compte quand même, c'est ce qu'on met dedans. L'important, c'est la ligne éditoriale. La ligne éditoriale, elle doit être exigeante, elle doit être ouverte, elle doit être attentive à ce qui se fait, et je pense que, quel que soit le support, quels que soient les croisements, plateforme ou pas, il faut avoir une ligne éditoriale claire, ferme, et s'y tenir, audacieuse, faisant appel aux jeunes talents. On a, avec les documentaires, par exemple, complètement rénové le genre, ce qu'ont fait Thierry Garrel et Pierrette Minetti. On a relancé le documentaire, Arte a relancé le documentaire en France, pas par des œuvres de très grande qualité. Je ne sais pas, Massoud l'Afghan, pour prendre un seul exemple. On a fait il y a eu des œuvres formidables. Et puis, toutes les collections en fiction qu'a fait Pierre Chevalier, 2000 vues par, Les garçons et les filles, sont restés dans les annales et resteront dans les annales de la télévision, justement parce que c'était des objets et une façon d'appréhender le monde, de confier des œuvres et des sujets à des jeunes réalisateurs, à des jeunes talents, leur donner du grain à moudre et accepter avec eux les risques qu'il y avait en étant audacieux. Ça, c'est important.
L'audace. Merci beaucoup, Jérôme Clément. On se retrouve demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Zoé Sfez avec Jérôme Clément. À voix nue, réalisation Olivier Guérin, prise de son Yvan Turc, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.